À voix nue. Cette semaine, en hommage à Anne Sylvestre récemment disparue, France Culture diffuse en nouvelle écoute les entretiens d'Hélène Azéra avec la chanteuse en 2002. Ce soir, le chemin des mots.
On vous a collé une espèce de chose infâme et abominable, c'était cette étiquette de Brassens en jupon. Alors c'est vrai que depuis, on attend avec impatience le premier chanteur.
Sylvestre en caleçon.
On dirait Sylvestre en caleçon.
Bon, maintenant j'aimerais que ce soit la dernière fois qu'on dit ça, parce que c'est vraiment ma croix ça, sur cette terre. C'est épouvantable.
Bon, et une croix terrible parce que c'est une croix flatteuse, parce qu'il y a quand même Brassens.
Ben oui, mais on croit que c'est flatteur, mais ça ne l'est pas. Il y a Brassens, mais il y a le jupon. Puis en plus, même s'il n'y avait pas le jupon, pourquoi est-ce que 40 ans après, on vous le ressort encore. Enfin, j'ai le droit. Je veux dire que je me pose à côté de Brassens, hein, ça ne me dérange pas. Je ne me pose pas en dessous, toute modestie mise à part. Donc, pourquoi est-ce qu'on me comparerait? Est-ce que Brassens, on l'a comparé à quelqu'un? Est-ce qu'on continue à comparer les autres gens à un homme, surtout? Enfin, je suis une femme, zut.
Et dans vos premières chansons, il y a un côté libertin. Votre première révolte, ça va être le libertinage. Alors, soit la Marie couche-toi là, disons, le nom, soit d'une chose un peu plus curieuse, qui est donc cette femme qui héberge les ébats de la fille adolescente de la voisine.
Madame la voisine, oui.
C'est une chose un peu choquant. Et toujours, là, c'est vrai que l'habillage paysano, rustico-élégant, permet de faire passer la
pilule. Éléonore aussi, Éléonore.
C'est vrai que la même histoire dans HLM, ça devient scabreux.
Ben voilà. Oui, ça deviendrait vilain. Éléonore aussi, c'est une prostituée, bien sûr. De village. Bon, de village, mais... Parce que c'est comme ça.
Je vous ai vu courir les filles quand le printemps poussait en vous, revenir le cœur en guenille d'avoir cueilli la fleur de roux. Je vous ai vu les beaux dimanches pavoiser dessous les lampions, mais qui vous retint par la manche quand vous baissâtes de pavillon. Oui, c'est moi, c'est Éléonore, Éléonore, avec un cœur qui est si vaste encore, Éléonore.
Et puis, c'est vrai que j'ai vu très vite que mes sujets religieux pouvaient être drôles, quoi. C'est pas facile, les chansons, pour faire rire. Il n'y a pas beaucoup de sujets qui font rire.
Quand à la messe j'allais, alors fallait voir les punaises me lorgner sans pudeur du coin de leur regard qui biaise. À travers leurs mains jointes, elles me lançaient des pointes. Voyez un peu l'allure qu'elle a, Ave, Ave, Maristella. Car moi j'y allais pour de bon balancer mes jupons. Car moi j'y allais pour de bon balancer mes jupons.
Alors, en écoutant le sermon, j'ai abondamment puisé dans la religion, enfin dans l'extérieur de la religion, pour faire rire les gens, les punaises, les regrets d'une punaise, etc. Plat de prière, tout ça.
En même temps, quand est-ce que vous avez commencé à vous rendre compte que le fait que vous étiez une femme, que vous écriviez vos textes, que vous composiez vos mélodies, c'était comme une sorte de revendication en soi, que vous aviez une revendication que n'avait pas un homme qui chantait ses chansons? Et ça, on va le voir dans vos chansons avec des portraits de femmes qui décident de prendre leur destin en main.
Oui. Bah, je pense que je ne l'ai pas formulé, mais ça a toujours été ça, il me semble. Que d'être, ne serait-ce que d'être une femme qui chantait, une jeune femme qui chantait et qui continuait à chanter
et qui composait ses textes
et ses musiques, qui n'abandonnait pas la chanson sous prétexte qu'elle faisait des bébés, qui continuaient à se débrouiller à faire ce métier, parce que j'en ai connu pas mal qui ont abandonné au moment où un mari leur a dit bah non, c'est moi ou la chanson, et puis où le bébé était là. Moi, peut-être que bon, mes filles, je ne sais pas, elles l'ont quand même pas trop mal vécu. C'était déjà subversif, je suppose, d'être une femme et de durer comme ça et de s'accrocher et de continuer. Je me suis toujours battue dans mon coin, puis tout d'un coup, je me battais plus toute seule dans mon coin.
Enfin, vous étiez en amont du féminisme. Cette revendication, d'une certaine manière, vous l'aviez commencée toute seule dans votre coin.
Oui, c'est ça. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas comment ça s'appelait, je savais pas ce que c'était. Puis je suppose que plein d'autres ont été comme moi. Puis tout d'un coup, on s'est retrouvés, c'était « Ah, oui, tiens, c'est vrai ». Mais la chanson « Non, tu n'as pas de nom », que certains appellent la chanson sur l'avortement, ce que je trouve un peu réducteur, je l'ai écrite en 73.
En même temps, vous l'avez écrite à une époque où vous êtes passée votre propre productrice.
Oui, oui, oui.
On peut parler de ce passage.
Bien sûr.
Comment
bien
vous avez
sûr.
Décidé?
J'ai décidé d'être. Bon, je me suis retrouvée. Je vais faire très court. J'ai été 9 ans chez Philips, puis j'ai voulu partir. On a voulu m'empêcher. On m'a fait un procès. Je l'ai perdu. J'ai payé. Après ça, je suis allée ailleurs, croyant que ce serait, comme c'était un copain, croyant que ce serait très très bien.
Chez Gérard Metz.
Oui, voilà. Ça a duré 3 ans. Après ça, il a fait des choses qui m'ont pas plu. J'ai fait un procès, je l'ai gagné, au nom du droit moral de l'auteur. J'ai fait jurisprudence, je suis bien contente. Et je me suis retrouvée, en fait, sans maison de disques, sans rien. Voilà. Alors, avec quelques chansons. Je continuais à écrire des chansons, dont d'ailleurs « Non, tu n'as pas de nom », dont « La lettre ouverte à Élise », et quelques autres. Je ne sais plus lesquels sont là-dessus.
Je cherche un mur pour pleurer.
Je suis allée à la radio Suisse romande, où j'ai chanté 2 chansons, dont « Un mur pour pleurer », et en direct, comme ça, avec la guitare et mon contrebassiste. Et là, ils m'ont dit « Est-ce que vous nous permettez d'utiliser cette bande et de la diffuser ?» Je dis oui, bien sûr. Puis, en France, je suis passée au Théâtre des Capucines, où un Sicilien fou m'a appelé un jour en me disant « Je veux que vous fassiez un récital à Théâtre des Capucines ». J'avais pas d'engagement, j'avais rien. Ou alors on m'appelait pour me dire venez chanter au Liban, venez chanter je sais pas où. Bon, quand il m'a appelé, je me suis dit encore un fou. Il a tellement insisté que je dis bon, très bien, on va se voir. Ok, puis je vais le décourager. Pas du tout, il est arrivé, il m'a dit bon, voilà, j'ai la salle du temps au temps, je veux que vous fassiez un récital. Je dis mais j'ai. Moi, je peux pas me permettre de perdre un sou. Il m'a dit non, pas de problème. Alors j'avais des chansons, donc puis j'avais eu un creux quand même, un petit creux de quelques années. Je dis bon ben on y va. Et puis j'ai donc fait ce tour de chant qui a fort bien marché. J'ai dit voilà, je vais voir si les gens veulent encore, s'ils viennent. J'étais un petit peu découragée quand même à l'époque. S'ils viennent, voilà, ils sont venus. Ils sont venus, mon Sicilien allait coller les affiches la nuit. Enfin bon, c'était. Puis finalement, on a même fait de l'argent, ce qui était magnifique. Et là, j'ai été enregistrée par France Inter, je pense, un soir. Et ils ont enregistré la lettre ouverte à Élise. Et pareil, ils m'ont demandé est-ce que vous permettez qu'on la passe sur les antennes. J'ai dit oui, donc cette chanson-là est passée. Bon. Et à cette époque-là, bon, mon avocat m'a dit mais. C'est pas difficile pour être producteur indépendant, il suffit d'avoir un téléphone. À l'époque, c'était finalement plus simple que maintenant, et en effet. Donc moi, je ne voulais plus me laisser embrigader, je voulais plus me faire trahir et imposer, par exemple, des pochettes que je ne voulais pas, ou des dates de sortie de disques que je n'avais pas choisies. Je me suis dit, bon, productrice indépendante, je peux. Si je n'avais eu que mes chansons pour adultes, là, celles que je chantais sur scène, j'aurais peut-être hésité. Mais je savais que avec les Fabulettes, j'étais certaine de vendre et de gagner de l'argent. et que ça pourrait soutenir mes autres disques. Donc, je me suis lancée. Je suis allée voir Monsieur Barclay et puis voilà, je suis devenue productrice en 73.
Et vous ne l'avez pas regretté ?
Non, jamais. Jamais, jamais. Alors pendant assez longtemps, jusqu'à il y a 12 ans à peu près, j'étais même productrice et je faisais fabriquer, et je livrais le produit fini à un distributeur. Puis c'est devenu plus difficile parce que le marché a changé, il n'y a plus de disquaires. Et les gens qui vendent des disques ne font plus de stock, on pouvait plus, parce que je faisais, pour que ça coûte moins cher, je faisais mes pochettes en grosse quantité, voilà. Et puis, c'est devenu plus compliqué. Et j'ai signé un contrat qu'on appelle de licence, avec une maison que j'adore, qui est EPM, dirigée par François Dacla.
Et puis, merde.
Voilà, et ça me convient très bien.
S'il vous plaît. Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefait. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Vous êtes documenté? Quand vous faites une chanson comme les sorcières, vous avez de la documentation?
Non.
Mais c'est des choses quand même que vous avez...
C'est de moi que je tire ça. Non, mais je suis une éponge. Je suis une éponge. J'absorbe ce qu'il y a autour et puis ça se transforme en chanson.
J'ai un garçon de mon entourage qui m'a dit que la chanson Xavier lui a permis d'assumer son homosexualité dans une ville de province. Quand sa mère lui a fait écouter cette chanson,
c'est drôle.
Il a compris qu'il pouvait vivre sa vie en étant un peu différent des autres. Et visiblement, il vous en était très reconnaissant.
Oui, j'ai rencontré souvent des garçons qui m'ont dit « Oh, Xavier, on aime, ça nous a aidés. » C'est bien aussi, ça. Les chansons, ça
vous
sert à ça.
Vous aviez pensé à ça ou...
Non.
C'était une histoire que vous aviez observée autour de vous.
C'était l'histoire du petit garçon d'une amie, mais lui il n'a pas. Je ne pense pas. Je sais. Ce n'était pas son histoire, mais je veux dire, c'est vrai qu'elle m'avait raconté ça un jour que Xavier, à qui on avait retiré son ours, s'est mis à langer une petite voiture, et que là, elle a compris que bon. Et ensuite, quand j'ai fait la chanson, elle était très étonnée quand même, parce qu'elle ne pensait pas. Et puis c'est son nom à lui. Il s'appelle vraiment Xavier.
Quand il était encore bébé, Xavier, voyant sa mère qui pouponnait son cadet, voulant tout faire comme maman, tendrement, langeait et berçait son ourson, sans façon, vous voyez. Était bien disposé. Mais les amis, mais les parents, apprenant qu'il était tendre et maternel, plus rebelle, de tomber à bras raccourcis, sans merci, sur la pauvre maman tranquille, malhabile. Vous voyez, qu'elle n'y avait pas pensé. Avec terreur, quelle horreur, qu'il allait être, paraît-il, pas viril, dire qu'il fallait mettre aussitôt une auto dans les mains de ce petit mal anormal. Vous voyez, à quoi on peut échapper.
Je ne sais pas d'où viennent les chansons. C'est une forme.
Parce que là, on a parlé beaucoup de mots.
Ouais.
Je ne vous ai pas parlé de vos compositions. Ouais. Et vous avez la chance d'être un et une des rares auteurs de chansons dont les textes peuvent se lire sans être ennuyeux, sans musique.
Oui, paraît-il.
Mais je crois que vous n'aimez pas trop qu'on dissocie...
Ce sont des chansons, ce ne sont pas des poèmes. J'écris des chansons.
Ça vient comment ? La musique vient avec les mots ?
Oui, avec... Oui, dans la tête. Et ensuite, je la cherche pour la préciser un peu plus.
C'est pas donc quelque chose qu'on colle sur autre chose.
Non.
Ça vient ensemble.
Non, c'est pour ça que
ça vient en compact.
Je suis pas très capable de mettre des musiques sur des textes des autres parce que non, j'ai la musique qui vient avec. Et il y a un rythme, il y a quelque chose. Mais à part ça, ça vient difficilement, quoi. C'est pas.
Vous composez la guitare? Vous composez...
Non, je me méfie. Comme je suis pas bonne guitariste, je risquerais de tomber dans des schémas toujours les mêmes. Donc, je m'efforce de composer dans la tête et de retrouver ensuite sur la guitare pour donner une cassette à mon cher orchestrateur François Roubert, qui est une sorte de génie. Mais c'est une curieuse chose. Bon, je suppose que tous les gens qui écrivent peuvent dire c'est une curieuse chose, l'écriture. C'est spécial d'écrire des chansons. C'est particulier. Surtout de les écrire aussi. Moi, je les écris pour les chanter.
Avec une idée de mise en espace théâtralisation.
Oui. Je sais comment je vais les chanter. Je sais aussi de quoi j'ai besoin pour un tour de chant, par exemple. Enfin, quand j'écris une série de chansons, les premières, bon, j'écris ce qui vient. Et puis, quand j'arrive vers les deux tiers, à peu près, là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il me manque pour cet album et qu'est-ce qu'il me manque pour mon tour de chant? J'ai besoin d'une chanson comme ci ou comme ça. Alors là, ça devient plus difficile parce que c'est vraiment de l'obliger. Mais c'est bien.
Et vous dites qu'il y a toujours une chanson qui arrive qui n'était pas prévue.
Souvent. Et pas toujours, malheureusement, mais
souvent. Et qui vous fait plaisir.
Ah oui. Mais c'est ça. Alors, c'est pour ça que de se mettre à écrire, c'est, par exemple, de décider, parce que moi, c'est ça, et je décide, bon, maintenant, je vais écrire des chansons. Je m'isole. Je me mets au couvent, presque. Et puis... il va falloir y aller. Et c'est difficile au début, c'est quelquefois les choses que j'écris en premier, je les garde pas parce qu'il faut que la machine se remette en route. Mais je suis toujours, ça m'intrigue. Je sais que ça va être dur. Si je pouvais, il faut que je me, presque il faudrait que je m'attache à ma chaise. Sinon je m'en vais faire des courses. J'irais même jusqu'à passer l'aspirateur, ce qui est quand même un comble. Mais ça m'intrigue. Je trouve ça... je ne sais pas ce qui va sortir. Moi, j'ai l'impression, au moment où je commence à écrire des nouvelles chansons, j'ai l'impression que ce sont des bulles de savon, puis que si j'y touche, elles vont éclater. Alors, il va falloir les reconstituer. L'idée est là, l'idée est belle, mais il faut l'écrire. On peut pas s'étendre, il faut garder son public, il faut que ce soit précis.
Ce qui est très curieux, c'est le mélange de besoin de grande sincérité et en même temps, il y a un étalage de savoir, oui. Parce que vos chansons, c'est de l'orfèvrerie fine.
Et puis c'est pas.
Il y a, des jeux de rimes, il y a des constructions.
Donc oui. Vous dites. Il y a deux choses là que je retiens. Je me cramponne parce que j'ai deux réponses à faire. Enfin, disons que la rime, je trouve que la rime est créatrice. Elle apporte. Souvent, quand je trouve une rime, j'ai toute la suite. C'est créateur,
ça inspire.
Ah oui, formidablement. Et le rythme aussi, enfin, je pense à la chanson Mousse qui est sur deux pieds. Au moment où j'ai décidé d'écrire, enfin, j'ai essayé d'écrire une chanson avec des vers de deux pieds, ça m'a ouvert tout un univers et puis ça a fait une chanson qui est étrange. Mousse. Douce, ne me pousse pas. Tendre et tendre, me prendre quoi? Tremble, semble, ensemble, non. Laisse, faiblesse, tendresse, bon. Mais vous parliez aussi de la sincérité. Mais la sincérité ne fait pas de bonnes chansons. Pas forcément, non.
Ah non, pas forcément.
Non.
Oh ben non.
Parce que il y a, mais non, c'est vrai. Elle peut faire des
trucs
épouvantables.
Mais par contre, si on n'a pas la sincérité,
oui,
mais sur scène, ça se voit.
Mais
le
oui,
public
mais
le devine.
Oui, mais la sincérité travaillée, la sincérité distanciée. Et c'est ça que j'essaye parfois de faire comprendre. Parce que je reçois, mon Dieu, je reçois des fois des disques que m'envoie. Tout le monde peut faire un CD maintenant, hein, dans sa cuisine. C'est vrai, hein, c'est, je suis pas sûre. Ce que j'essaye de faire comprendre parfois quand, bon, quand on parle chanson, quand c'est intéressant, etc., c'est la chanson, c'est pas je me suis levée, j'ai bu mon café, je suis allée dans la rue, à la fenêtre, etc. Il faut, on peut dire ces choses-là, mais autrement, et il faut que ce soit distancié. C'est pas possible, c'est pas du direct, c'est pas du premier degré. Ça fait pas de chanson, ça.
C'est pas un journal intime qu'on balance comme ça. Tout le monde ne peut pas balancer son journal intime
et
sur
même
Internet et que ce soit génial.
Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a reproché, m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'écris pas une chanson d'amour directe ?» Ma façon à moi n'est pas d'écrire direct. J'ai écrit des chansons d'amour. Mais oui, direct.
Plus une
dire,
des chansons bon, d'amour.
Et même quand, alors par exemple, on peut parler de la chanson de Michel Bernard, « Je t'aime ». Non, 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 non. Bon, elle a l'air comme ça d'être... elle peut passer pour premier degré, mais elle a plein de niveaux. Et c'est merveilleux, c'est une chanson remarquable, une chanson magnifique.
Alors, toujours les citations d'Anne Sylvestre. Oui. Si mon âme en partant ne peut dans ses bagages emporter la douceur d'une soirée de mai, s'il lui faut oublier qu'existèrent jamais les algues, les cailloux ramassés sur les plages, ne pourrait-elle au moins sauver quelques nuages de ceux qui couronnaient Sainte-Rose du Nord, ou bien les étendues de colza jaune d'or que Clémence à trois ans saluait au passage.
Ça, c'était beau, Alexandre.
C'est du Lamartine.
Ouais, mais c'est, alors, c'est, moi j'aime bien. Les Alexandrins, je suis tombée dedans quand j'étais petite, j'ai même pas besoin de compter. J'ai écrit des Alexandrins. Mais c'est pas facile à mettre en musique.
Avec le balancement rime féminine, rime masculine, parce que les gens parlent beaucoup d'alexandrin en ce moment, comme si l'alexandrin c'était uniquement le vers de 12 pieds. Mais l'alexandrin, c'est aussi le passage du vers masculin au vers féminin.
Oui.
Et celui-là, on l'oublie.
Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est beau, c'est agréable à écrire. Mais mettre en musique, c'est pas facile. C'est pas facile.
Parce que c'est lourd, parce qu'il a, il a des pieds d'éléphant. Parce
non,
que...
c'est pas ça. Mais il faut soutenir. Il faut soutenir 12 pieds.
Les vers de 8 pieds, c'est plus facile.
Oui, c'est le plus courant.
C'est le plus courant.
7 et 8. C'est le plus courant. Mais tout, justement, au moment où je choisis une découpe. Ça va définir toute la chanson, mais ça peut être, on peut alterner 7, 5, 9, 10 pieds aussi. Ça, les décasyllabes, c'est intéressant aussi. C'est très intéressant, mais parfois, il y a un problème auquel je me heurte. C'est quand le premier couplet est vraiment, avec plusieurs sortes de pieds, etc., il est très bien. Il faut écrire les autres.
Oui, sur la même...
Et oui, et ça, c'est difficile, parfois.
C'est, oui.
Mais oui, parce que la barre est très haute.
En forme poétique, on appelle ça une ode.
Je sais pas, non.
Des formes poétiques qu'on retrouve beaucoup à la Renaissance.
Oui.
Avec des... chaque plusieurs, strophe, ouais. Avec des vers de plusieurs.
Oui, mais il faut refaire
différents.
La même chose après.
Oui.
Voilà, c'est ça qui est difficile. Puis... là, je suis dans une période d'incubation parce que je pense à mes prochaines chansons. Donc, je suis vraiment d'ici très peu de temps, je vais devenir infréquentable parce que ça me gratte.
Vous enfermez.
Je vais le faire, oui. Il va falloir.
Vous mettez contre un mur.
Non, je vais me retrancher. Je sais pas.
Vous partez à la campagne.
Oh non, surtout pas à la campagne. Je suis incapable d'écrire. Non, ou peut-être je vais aller à Montréal, ou alors peut-être je vais me trouver un couvent, enfin un endroit, une chartreuse. Mais c'est un moment très intriguant, très intéressant. Puis alors, j'ai retrouvé des choses, parce que quelquefois, il y a des phrases comme ça. Une phrase qui est là depuis 10 ans. ou plus. Et tout à coup, pouf, elle va fleurir. C'est un peu comme des graines qui ont hiberné, ou hiverné. Et voilà, cette phrase-là, ou ce couplet-là, tout à coup va prendre son sens. Alors que jusque-là, c'était simplement...
Une phrase mystérieuse.
Oui. Quelquefois, ah oui, une fois il y a eu un couplet comme ça, un refrain qui m'a posé beaucoup de problèmes, c'était « On n'est pas tout neuf, on a son barda, on a ses impedimenta, on n'est pas tout neuf, on est tous des ex, on est tous plus ou moins duplex », j'avais ça. Et en fait, toute la chanson était là-dedans. Et j'ai eu un mal de chien à écrire autour.
Quelquefois, c'est... Curieusement, dans la chanson traditionnelle, il y a des fois, il y a des chansons qui n'ont pas plus long que ça.
Oui. Oui.
C'est la fille de la meunière qui dansait avec les gars, son jupon ne tenait guère, son jupon ne tenait pas.
Oui.
Et on peut danser pendant des heures là-dessus. Oui. Faut nous expliquer comment s'aller d'une phrase à une chanson sur des exemples du passé.
Bah, par exemple, la chanson que vous avez citée tout à l'heure, Si mon âme en partant, après le couplet, il y a Je mourrai à regret. Et ça, je le traînais depuis des années. Je mourrai à regret.
Et avec un hiatus. Mais tant pis pour le hiatus.
Oui. Oui, parce que le premier qui va le dire avec un S, il prendra ma main sur la figure. L'inculture, vraiment. Allez, on arrête. C'est un futur, messieurs, dames.
Si mon âme en partant ne peut dans ses bagages emporter la douceur d'une soirée de mai, s'il lui faut oublier qu'existèrent jamais les algues, les cailloux ramassés sur les plages, ne pourrait-elle au moins sauver quelques nuages de ceux qui couronnaient Sainte-Rose du Nord, ou bien les étendues de colza jaune d'or que Clémence à 3 ans saluait au passage. Si mon âme en partant soudain se retrouvait orpheline de tout ce qui l'émerveillait, je mourrais à regret. Si mon âme en partant doit laisser sur la rive le parfum de la terre après les giboulées, ou celui d'une ville au bitume lavé quand au petit matin les balayeuses arrivent, ne peut-elle emporter cette fragrance vive du jasmin qui poussait au jardin de ta sœur, l'odeur de tel matou aux relents assassins, ou l'étrange senteur des amours en dérive? Si mon âme en partant soudain se retrouvait orpheline de tout ce qui l'émerveillait, je mourrais à regret.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2002 entre Hélène Azéra et Anne Sylvestre, récemment disparue. À voix nue, réalisation Marie-France Thiveau, Vincent Deck, prise de son Alexandre Dang, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Croyez-moi.